Vous êtes sur RTL.
Exprimé à 12h07, il a dit cette phrase qui va peut-être faire réagir les auditeurs. Il nous faudra une troisième dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent. L'arme contre les variants, on la connaît, c'est la vaccination. Il nous faudra une troisième dose dans les mois à venir. Jean Castex, le Premier ministre. Thierry, en Charente.
Bonjour Pascal, rebonjour.
Rebonjour Thierry. C'est vrai qu'on a l'impression de se répéter.
Mais c'est pas une impression. Hein.
Oui, ça joue effectivement.
On se répète et je pense qu'à un moment il faut qu'on se calme tous, qu'on pose les choses et que parce qu'on est tous convaincus de détenir sa vérité et à un moment on a la chance d'être dans un pays développé avec un monde médical qui est plus que performant, qui est reconnu au niveau mondial. Et la première personne du monde médical qu'on rencontre à titre privé, c'est son médecin traitant. Donc, à part avoir un médecin traitant plutôt complotiste, je pense que 99% des médecins vous diront « vaccinez-vous ». J'avais pas ce discours il y a 6 mois en arrière. J'étais dans la méfiance, je disais « je veux attendre du recul, j'attends un vaccin français ». Et puis mon médecin m'a dit « non, il faut arrêter, maintenant il faut se vacciner ». J'ai eu ma première dose, je vais faire ma seconde dose, et s'il en faut une troisième, j'en ferai une troisième, et puis voilà.
Oui, alors si tout le monde raisonne comme vous, ça s'arrête demain. Si tout le monde est vacciné, visiblement, ça s'arrête demain.
On est bien d'accord, je veux dire, il faut arrêter, on sait que le vaccin, il faut arrêter de dire qu'on c'est ni un placebo, ni une puce électronique, aberration. Je veux dire, à un moment, il y a des millions et des millions de personnes qui sont vaccinées dans le monde, on est dans des pays développés, il y a des pays sous-développés qui sont en train de crever par dizaines, on n'en parle pas, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de finances, et eux, le vaccin, mais ils le prendront, ils se prendront même les deux doses en même temps, une dans chaque bras. Enfin, je veux dire, il faut arrêter.
Vous avez des enfants, Thierry ?
Oui, alors justement, je vais rebondir.
La question, c'est pour les plus jeunes, c'est pas pour...
Ce qui m'énerve au-delà de ça, c'est que moi, j'ai des enfants de 8 et 9 ans. Ils ont passé l'année scolaire, ils connaissent même pas le visage de leur maîtresse. Ils n'ont pas vu le visage de leur maîtresse durant toute l'année scolaire.
Vous allez les
vacciner ? Toute l'année scolaire. Ils ont 8 et 9 ans. Non, je ne vais pas les vacciner. Ils ne sont pas concernés.
On y arrivera à eux. Hein, c'est la même logique.
Quand on y sera à eux, quand mon médecin me dira qu'il faut les vacciner, je les vaccinerai. Pascal, pour l'instant, que les adultes prennent leurs responsabilités avant de s'en prendre aux petits de 8 et 9 ans. Je veux dire, les adultes, ils tournent en rond. Ils disent tout et n'importe quoi pour ne pas se faire vacciner. Et on est en train de dire on descend l'âge de vaccination pour parer à la bêtise de certains adultes. Et ça me met hors de moi. Ma fille de 9 ans, elle m'a dit « Papa, je veux la piqûre pour enlever le masque ». Vous vous rendez compte, elle a 9 ans. Et à côté de ça, vous avez des adultes qui disent « Oh, moi, je veux pas de ce vaccin parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous met sous la peau et tout ». Mais on devient complètement taré, on fait des caprices d'enfants gâtés.
Bon, il y a quelques avantages à connaître cette quatrième vague en ce moment. Lesquels ? C'est que pendant les vacances, traditionnellement, et pendant l'été, mais pendant les vacances, il y a moins d'interactions. Les gens ne sont pas dans les entreprises et les écoles sont fermées. Donc, statistiquement, les gens voient moins de monde. Donc,
Excusez-moi, Pascal, je vous coupe. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire pour 2020, pour l'été 2020. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'été 2021.
Pourquoi ?
Parce que cette année, force est de constater que tout le monde lâche prise parce que les gens
Mais tu vois moins de gens. Quand tu n'y travailles plus et quand il n'y a pas à l'école...
De gens, c'est la protection que vous prenez quand vous voyez les gens. Il n'y a pas besoin de voir 50 gens pour diffuser le virus. Si vous ne faites aucun geste barrière, si vous avez 6 personnes et que ces 6 personnes ne font aucun geste barrière et après continuent, et la chaîne est lancée. Si c'était vrai ce que vous dites, on n'aurait pas de quatrième vague, on n'aurait pas une inquiétude telle qu'on a aujourd'hui.
Alors, la quatrième vague, elle n'y est pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
J'essayais
d'apporter des éléments positifs et de souligner qu'il y a peut-être un avantage, je vais prendre cette précaution, parce que l'été, je le répète, les écoles sont fermées, donc il y a moins d'interactions des enfants, qui voient évidemment moins de personnes qu'ils n'en voient le reste de l'année, et c'est vrai aussi pour les adultes, parce qu'ils ne travaillent pas. Donc pas de déplacement en métro, pas de déplacement en bus, pas de contact avec les entreprises, donc tu vois moins de gens en fait, tu vois moins de gens l'été.
Vous avez d'autres concentrations, dans les clubs de vacances, dans les campings, sur les plages, dans les bars, dans les restaurants.
Mais tout ça est à l'extérieur quand même, vous voyez, les concentrations dont je vous parle, c'est la classe, c'est l'entreprise, c'est le métro, c'est le bus, tout ça c'est à l'intérieur.
il n'y a pas eu de foyer d'épidémie dans les écoles, il faut arrêter avec les écoles. Les enfants étaient juste peut-être porteurs, mais il n'y a pas eu de foyer.
Bon, j'essayais d'apporter un peu de.
Je suis désolé, je vais à l'encontre de ce que vous dites, mais je suis pas d'accord.
Attendez,
avec vous
je fais que répéter, vous savez, c'est pas. Je fais que répéter ce que j'ai.
Je dis pas que chaque fois qu'il y a une fête
lu et après ces dernières heures sur les épidémies, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'épidémie a priori l'été. En tout cas, il y en a moins.
Pour faire simple, Pascal, il n'y a pas 36 discours à avoir. Il n'y en a qu'un aujourd'hui. Et tous les médecins sont quasiment unanimes. Il faut se vacciner, point barre.
Bah, ça, là-dessus, on peut vous rejoindre. Mais je comprends aussi, et c'est tous les jours nous le disons à ce micro, la liberté individuelle de chacun. C'est aussi, je comprends, quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'est pas dans un pays totalitaire. Et il faut aussi entendre cette parole. Thierry, ouais. Merci. Il fait beau en Charente aujourd'hui ?
Bah écoutez, pour l'instant, il neige pas, donc on n'est pas trop mal.
Arrêtez, mais ça... vous êtes où, vous, en Charente, à Angoulême?
Ouais, c'est un temps pourri.
Mais non, il faisait beau ce week-end, il faisait chaud. Ah. Vous êtes à Angoulême même?
Non, je suis à une demi-heure d'Angoulême. Non, il fait pas beau.
Il fait plus beau qu'ailleurs, croyez-moi. Il fait plus beau qu'au nord de la Loire.
Dans le cœur des gens, il fait un temps magnifique, par contre.
Ouais. Bon, merci Thierry. Vous êtes en vacances bientôt?
Non, je prends pas de vacances.
Ah bon, bah comme ça, effectivement, c'est bien.
Moi, je pense.
Comme ça, vous n'avez pas en Espagne ou au Portugal.
Non, pas besoin d'aller là-bas. La France est très jolie.
Bon, je salue notre ami aujourd'hui qui est avec nous en régie.
Bonjour Pascal.
Bonjour Boris, comment ça va ?
Ça va très bien et vous ?
On va parler de Sophie Marceau, si ça ne vous ennuie pas. Parce que Sophie Marceau, c'est une icône. Et j'ai envie que les auditeurs nous parlent de Sophie Marceau. C'est un paradoxe quand même, parce que c'est peut-être parmi les grandes actrices, les icônes françaises, celle qui a la filmographie peut-être la moins... la moins prestigieuse par rapport à Catherine Deneuve, peut-être, Romy Schneider ou Annie Girardot. Mais en même temps, elle a un lien indéfectible avec les Français. On l'a vu hier sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Alors pourquoi autant de succès ? Pourquoi est-ce que les gens l'adorent autant ? Pourquoi est-elle aussi belle d'ailleurs ? Elle était magnifique hier. Donc j'espère qu'on parlera de Sophie Marceau, ce qui nous permettra de réécouter quelques notes de musique de La Boum. Pourquoi pas ? Laurent Tessier, dans une seconde, la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et vous l'avez dit, c'est un jour sans fin avec le variant Delta, l'augmentation du nombre de cas. Peut-on éviter une quatrième vague ? Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a alerté hier.
Ce variant est redoutable, il est extrêmement rapide. Et partout où il sévit, il peut gâcher l'été. Le risque d'une quatrième vague rapide est là.
Pour Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19, il n'y a qu'une seule chose à faire. Elle était l'invitée de RTL Midi.
La vaccination est aujourd'hui le seul moyen qu'on ait pour éviter d'avoir à nouveau un nombre important de personnes hospitalisées. Donc le vaccin n'empêchera pas complètement la circulation du virus, mais diminuera son intensité.
Mais le gouvernement doit-il prendre de nouvelles mesures ? Emmanuel Macron présidera lundi un conseil de défense sanitaire exceptionnel. Olivier Véran, le ministre de la Santé, vient de publier sur Twitter, le vaccin est 95% efficace contre les formes graves, 100% efficace contre le confinement. Et sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Jeannot lance un appel que les gens se rappellent des dégâts causés par le virus. Ils auront l'intelligence de se faire vacciner. Et Bernard ne veut pas entendre parler de nouvelles restrictions. On a déjà donné, c'est bon, qu'on nous laisse tranquille.
On sent bien quand même la tension qui va exister et moi je la sens et c'est pour ça que cette émission, souvent on dit les gouvernants devraient écouter les auditeurs, ont la parole. Il y a une tension qui monte entre vaccinés et non vaccinés. Nous sommes d'accord.
Faites le sujet dans un repas de famille, par exemple.
Mais là, on l'entend.
On l'entend dans l'émission.
On l'entend depuis une petite semaine. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes pompier à Valenciennes.
Oui Pascal, ce n'est pas la première fois que
je sais.
Vous passez sur votre antenne. Et d'ailleurs... Je vous remercie de nouveau de me donner la parole parce que ça fait du bien et je pense que ça va faire du bien à certains auditeurs d'entendre autre chose que des covidistes et des gens qui ont envie de vacciner tout le monde à tire l'arigot. D'ailleurs, je vous rejoins et d'ailleurs, je suis très content que vous m'ayez rejoint sur une des positions parce que je me souviens il y a quelques temps, vous avez fait une émission spéciale Covid où vous ne compreniez pas pourquoi je ne souhaitais pas me faire vacciner. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps, à l'heure des pros, vous avez fait venir un professeur de l'HPHP qui rejoignait complètement ma façon de voir. Et vous avez également rejoint cette façon de voir, c'est-à-dire que aujourd'hui de se faire vacciner pour quelqu'un qui a 70 ans et qui peut-être pourrait développer une maladie auto-immune dans une dizaine d'années, parce qu'on n'a pas le recul. Hein. C'est pas parce qu'on a des millions de personnes qui sont vaccinées qu'on a des millions d'années de recul. On a simplement 6 mois de recul. Et aujourd'hui, peu importe le vaccin, on ne se connaît pas si on pourra développer une maladie auto-immune. Donc quand on fait le vaccin à 70 ans, qu'on développe peut-être quelque chose à 80, c'est pas grave. Quand on fait vacciner un gamin de 10-12 ans et qu'il va développer peut-être quelque chose à 22 ans, je peux vous dire que le reste de sa vie va être très longue. Et donc moi aujourd'hui j'ai 40 ans, je suis en pleine forme, je n'ai aucun problème de santé, je n'ai pas de pathologie cardiaque. Et donc aujourd'hui de vouloir m'obliger à me faire vacciner parce qu'il y a des gens qui ont décidé eux de se faire vacciner, je trouve ça complètement délirant. Que les gens qui ont peur se fassent vacciner, que la population fragile se fasse vacciner, et donc on n'aura pas besoin de vacciner le reste de la population. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui, de faire vacciner le personnel soignant qui passe 30-40 fois par jour à se laver les mains avec 8-12 heures de masque sur le visage, ce soit il y a un risque potentiel de contamination.
Alors Geoffrey, ce que je vous propose, j'ai compris votre position, je vous propose de dialoguer avec Sylvie. Sylvie est médecin, elle vous a entendu, et Sylvie, elle est sur une position plus radicale. Bonjour Sylvie.
Bonjour Pascal. Bonjour.
Que dites-vous à Geoffrey ?
Eh bien, je dis d'abord bonjour à Geoffrey. Je félicite d'être pompier et de se dévouer pour les autres. C'est vrai que j'ai une vision qui est très très différente de la sienne. Là, je suis en consultation, j'ai ménagé un petit trou pour pouvoir vous parler. Donc, je vous parle de l'avant-dernière patiente que j'ai vue, qui est une patiente qui travaille, qui a 40 ans, exactement comme vous, qui est en pleine forme, qui a aucune pathologie, aucune surcharge pondérale, rien du tout, sportive. Ça, c'était avant le Covid, elle l'a eu il y a un an, donc juste au début. Et là, on est donc à 1 an et 4 mois maintenant. Eh bien, le temps qu'elle enlève son chandail et sa chemise, elle a été obligée de s'arrêter pour respirer parce qu'elle était essoufflée. Donc déjà, quand vous dites que vous, jeune, vous n'avez pas de risque,
attention, j'ai pas dit que de forme de développer une forme grave.
Alors, vous avez beaucoup moins de chance
de l'avoir, mais envers et surtout une forme grave.
Alors, c'est des formes. Quand on parle des formes graves, on parle des formes effectivement qui sont hospitalisées ou qui vont en réa, ce qui n'a pas été son cas. Mais même en ayant une forme qui est a priori pas grave au moment où on l'attrape, on peut avoir ce qu'on appelle maintenant et qu'on commence à mieux connaître le Covid long. Et c'est des gens qui, au bout d'un an, continue à ne pas pouvoir monter un étage. Elle était sportive, hein, je vous dis. Elle monte un étage. Elle arrive à pouvoir aller se laver les mains avant de s'allonger, tellement elle est essoufflée au bout d'un étage. Donc là, je voulais juste aller un petit peu à l'encontre de ce que vous dites. C'est que même les gens jeunes et en bonne santé, effectivement, ils n'ont pas forcément de risque de faire des formes graves. Mais c'est quand même, elle dit, c'est sa vie est quand même un enfer là depuis un an, donc c'est quand même très ennuyeux. Et puis je pense que quand même il faut que les gens se fassent vacciner parce que il y a le risque pour ces formes de Covid long, il y a le risque pour les gens fragiles, il y a le risque de contaminer des gens qui vont du coup faire des formes graves, et puis il y a le risque de contaminer, j'allais dire, l'économie générale, parce que moi,
quand vous dites les gens, c'est de quel âge à quel âge?
Quel âge
les vous gens dites les gens, des... c'est-à-dire que les gens au-dessus de 18 ans ou les gens au-dessus de 12 ans?
Pour se faire vacciner?
Oui.
Ah ben moi, je pense qu'il faut faire au-dessus de 12 ans. Moi, je pense
c'est-à-dire
que
tout le monde, toute la France doit se faire vacciner?
Oui, ah ben oui.
Donc, par exemple, je crois qu'il y a eu des gens en dessous de 20 ans qui sont décédés, il n'y en a pas, ou il y en a une poignée.
Si, il y en a eu, vous savez, au tout début, il y a eu une des premières, il y a une jeune fille qui est morte dans la banlieue parisienne. Elle avait eu des tests au début qui étaient négatifs. C'était au tout début. Ça devait être dans les 10 premiers morts. Et en fait, on s'est aperçu que c'était le Covid et c'était une jeune fille. Mais il y a des gens qui ont. Il y a beaucoup de gens jeunes qui ont des pathologies. Hein.
Oui, non, mais ça,
Pascal, moi, je voudrais intervenir sur ça. Les chiffres de Santé publique France, vous donnez le nombre de. Le chiffre de Santé publique France, vous donnez le nombre de 15 pour les enfants de moins de 15 ans, dont 10 étaient en comorbidité. Pour les 5 autres enfants qui sont décédés en France sur une année. On ne connaissait pas les pathologies cardiaques. Aujourd'hui, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je vais juste vous répondre là-dessus. C'est qu'il n'y a pas longtemps, justement, c'était très intéressant parce que Pascal était revenu avec un autre médecin de plateau qui était comme vous, qui ne souhaitait pas dire qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas suffisamment de recul sur aujourd'hui le vaccin. Et il y avait un professeur de la PHP qui était là et Pascal avait avec beaucoup de retenue, avait dit « ce n'est pas le médecin du coin, c'est-à-dire ce n'est pas juste le médecin de famille, on parle d'un professeur. Aujourd'hui, on donne la parole à juste à des gens qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faut vacciner. Moi, j'aimerais bien entendre des vrais spécialistes. »
Non, mais il n'y a pas de vrais spécialistes qui vous diront.
Alors là, moi, mais il y a quand même...
Ils vont pouvoir nous dire qu'ils n'auront pas forcément le discours que vous tenez.
Bon, Geoffrey.
L'essentiel des médecins hospitaliers qui voient les malades, si vous écoutez bien sur les ondes et si vous regardez bien le journal, 98% des professeurs, comme vous dites, et pas des médecins du coin, et les médecins du coin le disent aussi, qui voient les malades et qui voient l'AREA, ils vous disent qu'il faut être vacciné. D'ailleurs,
alors,
si on est tous vaccinés...
Sylvie, j'entends ce que vous dites. Geoffrey, s'il vous plaît. Geoffrey, Sylvie. Sylvie, j'entends ce que vous dites, j'ai aucun souci. Aucun souci. Simplement, moi, je veux bien me faire vacciner, je veux bien que toute la France soit vaccinée, à condition... je pose deux conditions. C'est que les laboratoires et les gouvernants soient responsables, civilement et pénalement. Parce qu'il ne faut pas nous dire, d'un côté, il n'y a aucun risque, tout va bien, et dire de l'autre, on exclut notre responsabilité civile et pénale. Ça, il y a quelque chose pour moi qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. En tout cas, je soumets cet argument à votre sagacité.
Non, mais l'État, il a dit qu'il assumerait la responsabilité civile et pénale. Parce que les médecins qui vaccinent, on leur a bien dit que notre responsabilité à nous ne serait pas engagée parce que c'était l'État qui serait responsable.
Et pourquoi les laboratoires, pourquoi les accords sont secrets, accords signés entre les laboratoires et les États? Pourquoi les laboratoires ne veulent pas assumer?
Ça peut être les laboratoires. On est là à dire les laboratoires vont faire de l'argent. Mais
non, je dis pas. Franchement, je ne dis pas ça et je ne veux pas verser dans aucun complotisme. Attendez, Sylvie, si vous me permettez. Attendez, parce qu'il faut apporter argument contre argument. Nous sommes d'accord. Je me fais là le porte-parole dans cette émission de ce que j'entends parfois. J'entends également des professeurs de médecine, et c'était le cas de M. Perromore que citait Geoffrey sur un autre média, disant une maladie auto-immune peut être déclenchée dans 5 ans. Par définition, nous n'en savons rien. Il disait, je ne peux pas empêcher que quelqu'un le pense.
Absolument, mais le problème, c'est que ça, c'est tout à fait exact. Mais le problème, c'est que maintenant qu'on connaît un tout petit peu plus cette maladie, il faut faire la balance. C'est toujours pareil, la vie sans risque n'existait pas. Il faut faire le risque entre une potentielle maladie auto-immune qui sera peut-être déclenchée chez certains dans 5 ans, et puis le Covid qui tue les gens.
Mais alors à ce moment-là, un gosse de 18 ans ne se fait pas vacciner.
Donne des maladies auto-immunes, parce que le Covid, c'est une maladie auto-immune, et qui donne des pathologies super lourdes à des gens, à l'heure actuelle, à des gens jeunes et sans pathologie.
Bah, écoutez, moi, Geoffrey, je suis en train de vous entendre parler de bénéfices-risques. Est-ce que le nombre d'enfants qui ont pu faire une forme grave, autant dire qu'ils sont nuls, aujourd'hui, ils ont plus de risques de développer peut-être quelque chose, de partir vers l'inconnu dans quelques années, de faire une forme grave maintenant. Sylvie, lorsque je vous entends parler sur l'antenne, j'ai adoré avoir vos coordonnées. Comme ça, si un jour on m'oblige à me faire vacciner, j'hésiterai pas à venir vers vous, car vous ferez partie des personnes qui seront responsables.
Et on marque une pause, Geoffrey et Sylvie, parce que nous sommes en retard. À tout de suite.
C'est génial.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent.
Si comme moi, vous n'avez toujours rien réservé pour cet été, je vous rappelle le conseil du jour de Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il était l'invité ce matin de nos confrères de France Télévisions.
Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations. C'est un conseil de prudence, c'est une recommandation sur laquelle j'insiste. Il vaut mieux rester en France ou aller dans d'autres pays. Mais là, on a une situation qui est particulièrement préoccupante, notamment au Portugal. Ils prennent, tant mieux, des mesures.
Nous sommes le 8 juillet. Est-il un peu tard pour faire passer un message de prudence? Pour celles et ceux qui n'ont rien réservé à l'heure actuelle, allez-vous suivre ce conseil? Les vacances auront-elles lieu pour vous en France? Ce sera le cas de 85% des Français. Dom ne partira pas en Espagne. Il annule une nouvelle fois cette année. Je préfère apporter à mes amis des souvenirs de vacances en France plutôt qu'un virus. Et vous pouvez aussi l'attraper dans d'autres pays, dans le nôtre par exemple, rappelle Gabriel. Et après, nous dit Thierry, libre à chacun de se rendre où il le souhaite, à ses risques et périls. Arrêtez de nous donner des leçons.
On n'a pas parlé des deux autres sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Ce sont les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Quelle est votre fable favorite?
Corbeau et le renard, bon, ça c'est classique.
C'est peut-être le plus grand styliste du monde, de France en tout cas. Jean de La Fontaine. Et puis, si vous avez envie d'évoquer ce qui se passe parfois dans votre voiture, un couple sur deux s'est déjà disputé en voiture à l'occasion d'un court ou long trajet, selon une enquête IFOP, précisément à cause de la conduite. Hein, nous sommes d'accord.
C'est ma vie, c'est ma vie. Avec madame, on se dispute régulièrement. Je suis Sébastien Loeb, madame est copilote pour donner le GPS et suivre la direction. Mais à chaque fois, ça finit mal.
Et vous engueulez donc à cause du trajet.
Parce qu'elle ne regarde pas le téléphone avec le GPS. À ce moment-là, il y a la belle-mère qui appelle. Donc, on a la totale et au final, on se dispute.
Bon, écoutez, plus de la moitié des femmes indiquent que
Vie, hein.
Oui, vous avez raison. Plus de la moitié des femmes indiquent que le style de conduite est une source de dispute avec leurs compagnons, comme la vitesse. Ça, c'est vrai que c'est... Les hommes conduisent généralement beaucoup plus vite que les femmes et c'est souvent pas agréable lorsque vous n'êtes... vous êtes le passager, quoi. C'est pas agréable. Donc, appelez-nous sur ce sujet. Je remercie Geoffrey et Sylvie pour ce petit échange qu'ils ont eu entre eux. Conversation amicale, mais quand même, ils n'étaient pas d'accord. Et puis, on va être avec André. Bonjour André, qui habite Toulouse, qui est cadre commercial et qui va nous parler de la vaccination, du Delta et tutti quanti.
Oui, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes vacciné?
Bah écoutez, oui, j'ai fait mes deux vaccins et je voulais dire que j'étais serein.
C'est comme l'armée, j'ai fait mes deux vaccins, hein, j'ai fait mes trois jours.
Et donc je suis un peu surpris que les gens paniquent, parce que si je ne me trompe pas, vous allez me dire, Pascal, a priori, Pfizer, Moderna nous disent que leur vaccin couvre le variant Delta.
A priori, oui. Alors, il couvre à 90% pour des cas graves et à 60% simplement pour une contamination.
Bon, les gens vaccinés ont très très peu de chances de se retrouver dans les urgences. Il y a encore au moins en réanimation.
Il y a 5%.
Moi, je suis cool. 5%. Je suis vacciné, je suis cool. Je vais n'importe où. Et j'aimerais bien dire à nos gouvernants d'aller voir Boris Johnson. Il a l'air beaucoup plus positif et optimiste que M. Véran.
C'est vrai que.
Ils ont de l'AstraZeneca.
Oui, mais là, c'est vraiment chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a rien, ou pas grand-chose. Mais la carte est verte partout. Mais le problème, c'est que ça augmente.
Tous nos aînés sont vaccinés. Tous les personnes.
Pas tous, hélas.
Voici 95%.
Ah non, pas. Je ne crois pas. Pas 95%.
Ah, on est à plus de 90%. On a les mêmes figures. Avec la décroissance d'âge et le taux de vaccination que les Anglais. Moi, je constate que les Anglais, ils ouvrent les vannes, et puis que nous, on reste frileux. Mais ça, c'est peut-être la France. On n'est pas trop optimiste, non?
On est dans un principe de précaution depuis le départ.
Mais moi, je suis vacciné. Le jour où je m'inquiéterai, Pascal, c'est le jour où Moderna et Pfizer nous diront, attention, le variant Oméga, j'aurais appris l'alphabet grec en attendant, et n'est pas couvert par mon vaccin. À ce moment-là, on pourra reconfiner comme en janvier l'année dernière. Mais en attendant, tant que le vaccin couvre tous les variants qui se présentent, ben soyez cool, sortez, enlevez le masque, et puis la vie continue.
Je suis d'accord avec vous, mais vous avez entendu, par exemple, ce qu'a dit Jean Castex à 12h07 aujourd'hui, il faudra une troisième dose.
Il faudra une troisième dose. Et bien, s'il faut une troisième dose pour toujours être cool, eh bien, prenons la troisième dose. Mais n'apeurez pas les Français. Incitez-les à se faire vacciner. Voilà, c'est tout.
Bah oui, mais bon.
Pourquoi vous les paniquez?
Mais non,
on est honnêtement couvert avec ce vaccin, ou alors ça sert à rien de se vacciner. Bon, il faut raison garder.
Alors,
le ciel nous tombe sur la tête, comme chez nos ancêtres, les Gaulois.
Bon, globalement, je partage ce que vous dites. Il y a quand même deux ou trois petites failles dans votre raisonnement. C'est que toutes les personnes fragiles ne sont pas vaccinées. Ouais. Et vous dites 90%, je pense qu'on n'est pas à ce chiffre-là.
Ben là, c'est le travail des toubibs généralistes, de les appeler, de leur dire, de les convaincre, de leur entourage, leurs fils, leurs tuteurs, tout ce que vous voulez. Après, quel est votre autre argument?
L'autre argument, vous l'aurez après la pause. Je vais réfléchir.
À tout à l'heure.
À tout de suite, André.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Donc André nous dit de ne pas paniquer. Et il nous dit que la situation n'est pas assez grave. Et il a fait une synthèse parfaite de la situation. Et je lui ai dit quand même qu'il y a une petite faille dans le raisonnement. C'est que tous les gens fragiles, principalement, hein, c'est ça l'objection que je peux vous faire, tous les gens fragiles ne sont pas vaccinés.
Eh bien, que le discours du ministre porte sur cette population et n'embête pas les
autres. Mais on le dit sans arrêt. Ils le disent sans arrêt. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner.
On ne va pas confiner, on ne va pas remettre les masques et tutti quanti. pour 0,5% de la population fragile qui n'est pas encore vaccinée.
Ce n'est pas 0,5%, parce que 20% des plus fragiles, c'est quelques centaines de milliers et quelques, je ne sais pas précisément, mais c'est plus d'un million de personnes.
Mais ces personnes-là, elles ne sortent pas dans la rue. Et puis voilà, donc moi, je suis vacciné, j'enlève mon masque, j'aimerais bien enlever mon masque partout, comme les Anglais, vivre, et voilà. Et puis le jour où on me dira le vaccin Oméga, il faut s'en méfier, à ce moment-là, je veux bien remettre le masque. Mais en attendant, on vit et on oublie, on reste positif et optimiste. Voilà.
Bon, bah merci beaucoup André, en tout cas, merci et bonne journée du côté de Toulouse. Janine est là, bonjour Janine.
Oui, bonjour Pascal.
Janine qui est perplexe.
Ah oui, complètement.
Mais pourquoi ?
Eh bien, moi, je ne sais plus qui croire entre le porte-parole du gouvernement et les instances médicales.
Parce que ils disent la même chose.
Non, pas du tout. Monsieur Attal nous dit que 40% des contaminations sont dues aux variants.
Oui.
Bon. Le professeur Juvin, que j'ai entendu hier sur une autre radio, nous informe qu'il est impossible, sans séquençage, de déterminer les variants. Or, sur les 30 derniers jours, il ne représentait que 1% des prélèvements en France, le séquençage.
Non, j'entends ce que vous dites et je découvre ce que vous dites.
40, si ça fait 40% de 1%, ben écoutez, ça ne fait pas grand monde. Hein.
Alors, il faudrait vérifier ce que vous dites, malheureusement, pour peut-être éclairer ce que vous dites. Et je ne sais pas si on peut le faire en direct. Moi, j'ai le sentiment que si Gabriel Attal dit que 40% aujourd'hui des contaminations sont dues aux variants Delta, c'est que lui-même s'appuie sur ses sources qui peuvent être Pasteur, je ne sais quel organisme qui travaille dessus, de ministère de la Santé, et qu'effectivement, c'est une sorte de vérité officielle qui est dite.
Ben voilà, mais entre lui, ce qu'il dit, et le professeur Juvin, qui me semble quand même être plus
a priori, ils doivent dire la même chose. C'est pour ça que vous m'étonnez. Je dis a priori, donc je suis étonné de ce que vous dites. Puisque Juvin, il dirait que ça représente simplement 1% des nouveaux cas, le variant Delta, c'est ça ?
Non. Que le séquençage, parce que lui, il dit que sans séquençage, il est impossible de déterminer les variants.
Oui.
C'est ce que j'ai entendu hier matin. Et il a ajouté que sur les 30 derniers jours, les séquençages ne représentaient que 1% des prélèvements.
J'ai compris. Voilà. D'une manière générale, vous pensez que parce que c'est la question du jour, vous pensez que le gouvernement devrait prendre de nouvelles mesures ?
Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il cherche qu'il nous fait peur, quoi. On se demande à quoi il joue. À faire peur aux citoyens pour mieux les tenir en laisse. Moi, c'est un petit peu ce que je pense. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous aviez repris mes arguments du secret qui entoure l'accord Union européenne et laboratoires. En cas de problème post-vaccination, notamment, qui sera responsable ? Les labos ? Point d'interrogation. Le gouvernement ? Point d'interrogation. Personne ? Alors là, je mettrai un point d'exclamation plutôt. Hein.
Mais Janine, chacun a son analyse, bien sûr. Oui. Vous imaginez que c'est pour nous tenir en laisse. Moi, je crois que c'est pas ça. Je crois que simplement, le gouvernement, il se couvre. Il prend ses bretelles et ceinture. D'envisager le pire pour précisément qu'on ne lui reproche pas. C'est le principe de précaution poussé jusqu'au bout.
C'est en même temps.
En même temps, mais là, en l'espèce, depuis un an et demi, c'est quand même souvent des mesures qui sont peut-être allées au-delà de la crise en elle-même. Moi, c'est le sentiment que j'ai.
À mon avis, il ne devait pas savoir trop comment prendre le problème. Et puis, c'est plus facile de faire peur aux gens que de...
Mais là, faire peur, c'est une conséquence. Ce n'est pas un objectif.
Par contre, moi, ce que j'aurais aimé connaître comme chiffre également, ça, on n'en parle jamais, ou je ne sais pas, j'ai dû zapper l'information, sur le nombre total de personnes qui ont été atteintes du Covid, là, ça représente combien par rapport aux personnes qui ont été hospitalisées, au nombre de personnes hospitalisées ? On a le nombre de personnes hospitalisées, mais on ne met jamais en rapport par rapport au nombre de personnes contaminées.
J'entends bien, alors je peux pas donner effectivement ce rapport, mais évidemment le nombre de personnes hospitalisées par rapport au nombre de personnes contaminées est faible, forcément et heureusement d'ailleurs.
Mais
on va chercher. Mais vous avez raison. Là où vous avez aussi raison, je trouve que ça manque parfois d'éléments factuels. C'est-à-dire que c'est tellement touchy ce sujet du Covid que si on dit, par exemple, sur les 100 000 personnes qui sont mortes, si on dit, et c'est ce que dit le professeur Raoult, que dans cette liste des 100 000, il y avait des gens qui étaient déjà extrêmement malades, qui étaient parfois en fin de vie, et que, pourquoi pas, bah, prenons un exemple d'une personne qui a un cancer en phase terminale, et puis dans les trois dernières semaines de sa vie, en même temps, il a le Covid. Bon, il est statistiquement mort du Covid. Vous voyez, mais ouais, c'est pas la même chose de mourir du Covid que de mourir avec le Covid. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en même temps, j'ai bien conscience que si je dis ça, certains m'entendent, m'écoutent en ce moment et disent mais c'est pas grave, il est mort du Covid quand même. Vous voyez, bah, même s'il est mort.
Je peux vous en parler en connaissance de cause. Excusez-moi, je vous en prie. Je peux vous en parler en connaissance de cause parce que dans ma famille, j'ai le cas d'un décès. On n'a jamais trop su si c'était dû au Covid ou à son état de santé qui se délabrait, quoi.
Et il a été statistiquement donné mort du Covid, oui.
Voilà.
Et oui. Mais je vous dis, c'est tellement même si vous dites ça dans un dîner avec des amis, etc. Les positions sont irréconciliables sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est devenu passionnel. Voilà. Idéologique, passionnel, le Covid, la vaccination, tout ça, c'est des sujets, faut plus y toucher, sauf pendant les auditeurs ont la parole.
Non, moi personnellement, je ne suis pas contre les vaccins du tout. Moi-même, j'ai fait mon rappel contre le tétanos il n'y a pas très longtemps, là, le mois dernier. Donc je ne suis absolument pas contre les vaccins, mais c'est toute cette... c'est parole. Et puis, on est noyé sous un flot de paroles. On a l'impression de ne plus avoir notre libre arbitre. Il faut faire comme ça, et voilà, et c'est comme ça. Eh ben non, moi je refuse de me laisser imposer des choses sans avoir la pleine connaissance de ce qui peut arriver.
Bon, écoutez, merci beaucoup de votre témoignage qui est plein de modération et qui est vraiment extrêmement intéressant. Il est 13h39.
Bah, merci beaucoup, Pascal.
Nous allons marquer une pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et on salue des clients de la grande maison RTL qui sont venus nous voir aujourd'hui et qui étaient en régie, qui visitent notre maison. Donc on leur dit bonjour et ils sont évidemment les bienvenus. Laurent Tessier.
En déplacement à Blois où il assiste au congrès annuel des villes de France, le Premier ministre Jean Castex a tenu ses propos sur la vaccination contre la Covid-19.
Sans doute pour les plus vulnérables qui ont été vaccinés les premiers, à la fois parce qu'ils sont vulnérables et parce que cette vaccination est intervenu de manière anticipée. Il nous faudra une troisième dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent.
Et vous pourrez réagir à ces propos du Premier ministre au 3210 3210. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce sujet.
Quand j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu.
Un couple sur deux s'est déjà disputé en voiture à l'occasion d'un court ou d'un long trajet. Selon une enquête IFOP, plus de la moitié des femmes indiquent que le style de conduite est une source de dispute avec leurs compagnons, comme la vitesse. Est-ce votre cas ? La direction à prendre est aussi source de conflit.
À gauche, putain !
Ah, la belle ambiance. 43% des femmes en couple ont déjà eu peur en voiture lorsque leur mari conduit.
Mais c'est toujours intéressant, il y a des choses qui m'amusaient toujours. Dans un couple, par exemple, qui conduit ?
C'est plus souvent l'homme.
Ben c'est vrai.
Selon l'enquête IFOP.
Pourquoi ? J'ai l'impression que alors évidemment
ils mettent en avant le sentiment de sécurité.
Tout le monde a deux voitures aujourd'hui, mais par exemple lorsqu'on ne prend qu'une voiture pour aller faire le marché parce qu'on est ensemble, etc. Qui conduit dans beaucoup de cas ? C'est plutôt l'homme, vous pensez ?
C'est plutôt l'homme selon l'enquête IFOP.
Ouais, c'est drôle, hein ? J'ai ce sentiment.
Et on vous attend au 3210.
Et pareil, quand il y a deux voitures dans le couple, qui a la plus belle voiture ?
L'homme.
J'ai peur que
les
stéréotypes que l'homme a une plus grande voiture que la femme. Quand il y a deux voitures, l'homme a parfois une plus grosse voiture et la femme une plus petite voiture.
Venez nous confirmer ces informations.
C'est tout à fait empirique ce que je dis. Je suis pas sûr, loin de là, d'avoir raison. Nadine dans le Calvados. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nadine. Vous avez eu le Covid ?
Bonjour. Non, je n'ai pas eu le Covid, mais je voudrais réagir à ce qu'a dit le pompier dans votre émission, en début d'émission. Il était contre l'obligation de la vaccination et je le rejoins. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire. Moi, j'ai eu une première injection d'AstraZeneca le 26 mars. 14 jours après, j'ai eu un souci de jambes. Jambes gonflées, gonflement. J'ai eu droit à des examens échodoplaires, j'ai vu un angiologue, des examens de sang. Et on ne sait toujours pas si ma cheville, ce sont des suites de mon injection. Donc, je n'ai pas eu la deuxième injection parce que mon médecin ne veut pas, tant que qu'on ne sait pas, ne veut pas me vacciner. Et je suis un sujet fragile pourtant. J'ai fait de l'hypertension, j'ai du cholestérol, enfin tout ça. Et là, j'entends parler, on doit faire vacciner les gens qui sont fragiles. Alors moi, je dis non, les gens doivent choisir. Parce que moi, j'étais pour la vaccination. Or, après une première injection, je n'ai que des problèmes.
Mais aujourd'hui, vous êtes, cette injection, elle a eu lieu quand ?
Le 26 mars.
Donc là, aujourd'hui, on est le 8 juillet. Et aujourd'hui, vous avez encore des symptômes ?
Oui, j'ai toujours une très grosse cheville, jusqu'au mollet très gonflé. Je fais des drainages lymphatiques.
Hein, et ça, vous ne l'aviez pas avant ?
Et je ne l'avais pas avant.
Et les symptômes sont arrivés combien de temps après la première injection ?
14 jours. 14 jours après la première injection.
Et qui nous dit que c'est lié à cette injection ?
Eh bien, rien, justement. Rien et personne. Parce que, justement, on n'arrive pas à le prouver, si vous voulez. Donc, moi, je pense que peut-être que dans quelques mois, je vais déclarer une maladie auto-immune parce que j'ai eu une première injection.
Et que veut dire, vous avez vu votre médecin traitant, mais vous avez vu d'autres, vous avez vu des spécialistes peut-être ?
Oui, j'ai vu un angiologue, hein, parce qu'on voulait surtout voir si c'était une phlébite, hein, si c'était quelque chose dans ce genre-là. Et ça n'en est pas une. Hein. J'ai eu aussi une échographie pelvienne pour voir si au niveau des artères du ventre il y avait quelque chose, il n'y a rien. Hein. Et donc c'est vraiment après cette première injection que tout ça est arrivé.
Bon, je rappelle que l'angiologue est un spécialiste a priori des pathologies vasculaires. Nous sommes d'accord. C'est des soins aux vaisseaux sanguins, l'angiologie. Voilà. Mais c'est aujourd'hui. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Vous allez avoir quelques rendez-vous pour éclairer cela ou vous attendez que ça se passe ?
Je revois mon médecin traitant, mais là, j'attends la fin de mes drainages lymphatiques, hein, pour voir s'il y a un résultat.
Et pour le moment, ça n'a pas été efficace.
Non, pour le moment, ça n'a pas été. J'en ai eu trois.
Et vous n'aviez jamais eu cette cheville et ce mollet gonflé, jamais dans votre vie.
Jamais.
Bon, oui. Et c'est très handicapant.
Eh bien oui, parce que si vous voulez, comme c'est très enflé, je ne peux pas marcher correctement. Je suis empêchée par le dessus du pied, si vous voulez.
Et c'est douloureux ?
Non, c'est pas douloureux. C'est ça qui est remarquable, c'est que je ne souffre pas.
Hein. Bah c'est vraiment, Nadine, c'est pas agréable la situation que vous vivez, bien sûr.
Non,
c'est
pas
agréable. Et donc, qu'est-ce que vous disent les médecins si on se projette sur 3 mois, 6 mois ?
Eh bien, ils me disent qu'ils ne voient pas d'où ça vient, quoi. Hein, d'où ça vient. Mais il y a ce fameux AstraZeneca qui est là. Donc,
bien sûr.
Voilà. Et je n'ai toujours pas non plus la deuxième injection. D'ailleurs,
ah bah non, bah, votre médecin traitant a raison, effectivement. Ce n'est pas utile de... Alors là...
Et vous voyez, moi je suis une personne fragile.
Oui.
Je me suis fait vacciner et il m'arrive cet incident.
Alors, vous êtes... Mais c'est terrible. C'est terrible. En plus, vous n'êtes pas immunisé de ce fait.
Non, je ne suis pas immunisé. Bon.
Donc, il est possible que vous soyez dans les statistiques, et c'est vraiment très regrettable, des effets secondaires qui existent statistiquement lorsqu'il y a une injection. Et ce qu'il faut espérer, c'est que cette cheville et ce mollet qui enfle, avec le temps, disparaissent.
Ben oui, c'est ce que j'espère. J'espère que ça ne va pas se terminer par, je vous dis, une maladie qui m'arrive comme
non,
ça, parce que j'en ai
66
ans et j'entendais le pompier qui disait si on vaccine un gosse de 12 ans et que
non, mais Nadine,
à 30 ans, ça se déclare.
Nadine, ne voyez pas les choses de manière trop sombre.
Vous savez, quand il vous arrive quelque chose comme ça, alors que vous étiez bien quand même, que vous marchiez bien, que...
Non, mais les effets, a priori des vaccins, ils sont tout de suite ou jamais. Et le fantasme de la maladie auto-immune, c'est ce qu'on dit parfois en théorie, mais rassurez-vous, soyez rassurés. En plus, l'un n'est pas lié à l'autre. Vous voyez, cette maladie auto-immune, ça n'a pas de rapport avec ce que vous vivez là. Non, là, c'est peut-être une réaction à ce vaccin que vous avez fait et qui peut-être va, il faut le souhaiter d'ailleurs, va s'étioler. Bon, Nadine, merci de votre témoignage.
Mais je vous en prie.
Merci de votre témoignage. Ce qui serait bien, moi je vais arrêter demain, mais Christelle Rebière va être là les 15 prochains jours. Et ce qui serait bien, c'est que vous nous donniez des nouvelles, Nadine. Mais en tout cas, on va garder votre portable parce que l'ami Laurent Tessier est là et on va évidemment vous appeler. Moi, ce sera la dernière demain de la saison. Hein. Je reprendrai le 23 août. L'ami Christelle sera là, je l'ai dit. Mais on prendra de vos nouvelles, Nadine, si vous nous le permettez. Et on vous embrasse fort en attendant parce que c'est pas rigolo. Merci, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent,
parlons de poésie dans l'émission de Fable. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Jean de La Fontaine est né il y a 400 ans. Quelle fable vous vient immédiatement à l'esprit? 32-10. Et c'est officiel, l'emblématique défenseur Sergio Ramos a rejoint le Paris Saint-Germain pour 2 saisons. Supporter parisien, êtes-vous satisfait? L'ancien capitaine du Real Madrid à 35 ans est-il une bonne opération pour le club? 32-10, 3-2-1-0.
Marjorie est avec nous. Marjorie qui voyage et donc qui est vaccinée. Bonjour Marjorie.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous êtes vaccinée à quel vaccin?
Pfizer, il y a quelques mois maintenant en fait. Alors tout simplement parce que je voulais voyager et que j'avais bien compris que si on se faisait pas vacciner, on allait avoir quelques soucis cet été. Et je me suis pas trompée. Donc moi je reviens de Martinique, hein, où on nous a demandé donc le vaccin, on nous a demandé de faire un test hein, aussi antigénique hein, pour y aller, mais pas pour revenir. C'est-à-dire que pour entrer sur le sol de Martinique, un département français, on doit faire un test. Mais par contre pour revenir en France, on n'a pas de... Il n'y a pas de souci, on ne nous a rien demandé du tout, d'ailleurs, entre autres. Mais sinon, je trouve un peu désolant, en fait, qu'on nous impose, enfin, on nous dise, attention, n'allez pas en Espagne, parce que moi, je compte aller en septembre en Espagne, hein, si bien sûr les frontières sont encore ouvertes. Je pense que les gens, vous avez raison, ça se tend entre les non-vaccinés et les vaccinés.
Ah, moi, je le sens. Ça, je peux vous dire que je le sens à ce micro, et puis on le sent dans la rue, on le sent dans l'entreprise, on le sent sur des plateaux de télévision. Non, c'est incontestable.
Ça se tend, et je pense, vous voyez, moi, personnellement, le vaccin, je l'ai fait, parce que voilà, je veux voyager, parce que aussi, j'ai un compagnon qui a une maladie auto-immune, mais par contre, je ne ferai pas vacciner mes enfants. Parce que aujourd'hui, moi, je pense très sincèrement qu'on n'a pas assez de recul sur ces vaccins. Et pour une population qui finalement, je crois que c'est votre auditeur, le pompier, qui a très justement dit les choses. Moi, les enfants, ils n'ont pas de risque ou peu. Voilà. Donc pourquoi obliger des enfants? Moi, s'il m'arrive quelque chose dans 5-10 ans. Bon, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, j'ai 50 ans.
Ah bah vous rigolez, ne dites pas ça. Je vous assure, quand vous aurez 60 ans et que vous aurez quelque chose...
Mais mes enfants, ça me ferait... Franchement,
non, mais
mes enfants...
Je suis d'accord sur les enfants et sur les ados. Et c'est ma position, c'est-à-dire que eux ont quasiment aucune chance statistiquement ou probabilité, plus exactement, de terminer en réanimation. S'ils ont le Covid, ça passe comme une lettre à la poste.
Bon,
dans une immense majorité des cas. Alors, effectivement, après, j'entends ce qu'on nous dit, c'est pour ça que ça se tend, c'est que les pro-vaccins disent, attention, c'est pour protéger les autres. Mais moi, je leur réponds, les autres, les fragiles,
ils sont protégés.
Ils sont protégés, puisqu'ils sont vaccinés. Donc, on a l'impression d'un dialogue de sourds à ce moment-là qu'on engage, et je crois que je vais refuser ce type de débat. Je vais simplement écouter les uns les autres parce que on bascule dans l'irrationnel et on est aux portes parfois de s'engueuler. Pardonnez-moi cette expression un poil triviale.
Tout à fait.
Tout à fait, mais je suis mais complètement 100% en phase avec vous. Cette Covid rend fou.
Ah oui, ça, bah, c'est le livre de Bernard-Henri Lévy, ce virus voilà. rend fou. Et voilà. Ce titre-là, et on le mesure tous les jours. La vaccination, c'est vraiment... c'est très compliqué de trouver un point d'accord sur qui doit être vacciné et qui... peut ne pas l'être. Voilà. C'est pas qui doit ne pas l'être. Et puis il y a la liberté individuelle, quoi. C'est
exactement.
C'est quand même si après, quelqu'un voilà. te dit je veux pas être vacciné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je veux dire, c'est aussi son choix.
Pour les vacances, vous voyez, là, on nous a dit ce matin, j'ai entendu, hein, je ne sais plus, à cette porte-parole, n'allez pas en Espagne, oui. n'allez pas au Portugal, mais allez travailler. Il n'y a pas de souci, revenez en entreprise. Vous voyez, il y a quand même un petit décalage. Hein. Pour les vacances, non, restez chez vous. Mais aller travailler quand même. Non, mais voilà, je veux dire, c'est où on est open et tout est OK, tous les voyants sont ouverts et on y va, ou alors c'est pas ouvert et on n'y va pas. Vous voyez, c'est toujours deux poids, deux mesures, quoi. C'est ça, moi, qui m'embête. C'est vraiment ce deux poids, deux mesures. C'est, bah voilà, aujourd'hui, on a quand même visiblement tous les voyants ouverts, donc laissons les gens aller où ils souhaitent aller en vacances. Surtout que, moi, je dis, septembre, octobre, risque d'être chaud. Donc partez en vacances et reposez-vous, voyagez. Et si vous pouvez, enfin moi, c'est ce que je fais en tout cas, parce que je sais très bien qu'en octobre, on va nous dire de nouveau...
Non, je crois pas.
Oh, moi, j'en ai peur. Hein.
Je suis en train d'éternuer à cause de la clim, voyez-vous. Mais comme je suis tout seul dans ce studio, a priori, je ne vais contaminer personne. Marjorie, je vois que vous êtes RH.
Oui,
bah, je peux vous dire que dans les entreprises, ça va être chaud parce que quand vous allez avoir un vacciné qui va entrer dans votre bureau et qui va vous dire « moi, je ne veux pas participer à une réunion où il y a un non-vacciné », vous allez être... vous ne savez pas savoir que... Non, mais c'est ça qui va
on
se passer.
On prépare de belles journées, ça c'est clair.
Et depuis des semaines, je dis qu'on a mis le doigt dans un engrenage parce que les mêmes viendront aussi pour... Alors, une fois... passer le Covid pour nous dire moi je veux pas prendre la grippe de machin truc ou je veux pas
Exactement.
Son rhume. Donc le masque pour tout le monde. Et là, je sais pas ce que vous allez répondre.
Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. À chaque jour suffit sa peine. On aura des consignes, bien sûr, parce qu'il faudra que je suive la politique de l'entreprise. Donc on aura des consignes, mais comme je dis, à chaque jour suffit sa peine. Là aujourd'hui, moi, mon job, c'est de rassurer tout le monde pour revenir travailler.
Bon, bah en tout cas, vous en parlez drôlement bien. Et c'est agréable de vous écouter, Marjorie, parce que vraiment, vous avez. C'est ce que vous dites est clair. Alors, je dis que c'est intelligent parce que je pense comme vous, mais c'est un peu. Vous savez. Je dis ce que vous dites est très intelligent. Ben oui, je pense à la même chose que vous. Mais bon, on pense.
C'est du bon sens, en fait.
Mais bien sûr.
C'est du bon sens.
Mais vraiment, je vous remercie grandement de vous être exprimé et surtout de la manière dont vous l'avez dit. C'est assez agréable. Mais on voit la patte de la RH qui met un petit peu de souplesse et de diplomatie.
Exactement.
Forcément.
De bienveillance aussi.
Exactement.
Parce que je pense qu'on manque de bienveillance.
Mais ben, c'est ce que disait, figurez-vous, Sophie Marceau dans une interview dans Le Parisien. Ça tombe bien parce que j'ai envie qu'on parle de Sophie Marceau. Cette icône française dans la dernière partie. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
RTL. Il est 14h. Le flash avec Stéphane Geneste.
Cédric Jubilard reste en prison. Sa demande de remise en liberté a été rejetée. Il conteste fermement son implication dans le meurtre et la disparition de sa compagne Delphine. Depuis la mi-décembre, elle n'a pas donné signe de vie. Les ossements découverts dans le Gard il y a deux semaines sont bien ceux de Lucas Tronche. Le doute était faible, mais il subsistait tout de même. L'ADN retrouvé sur les restes humains qui ont été analysés par les enquêteurs est bien celui de l'adolescent de 15 ans. Lucas Tronche avait disparu en 2015. Dans le reste de l'actualité, le variant Delta du Covid-19 au cœur des préoccupations du gouvernement. Un foyer de 9 cas positifs à cette mutation a d'ailleurs été détecté dans les Vosges parmi des supporters de retour de Hongrie où ils avaient assisté à un match du Portugal à l'Euro de football. Et puis, face à la propagation rapide de ce variant, Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes, met en garde les Français, notamment pour les vacances d'été. Il conseille d'éviter de partir en Espagne et au Portugal. Et puis, on a les résultats du concert test qui s'est tenu fin mai à Bercy. Souvenez-vous, 4000 participants s'étaient prêtés au jeu lors du concert d'Indochine. Eh bien, l'absence de surrisque d'infection a été démontrée dans le cadre de cette expérience. Allez, on prend la direction de la Drôme provençale.
RTL, Tour de France 2021.
12e étape du Tour de France aujourd'hui entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Nîmes, 160 km. Sur la ligne d'arrivée, Christian Olivier, les coureurs donc se sont élancés il y a quelques minutes pour une étape qui n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Bonjour Christian.
Bonjour à tous, bienvenue à Nîmes. Une étape qui sera très compliquée car il y a du ZEF. Du ZEF, c'est du vent. Et je profite des auditeurs en la parole pour lancer une consultation et l'expertise des auditeurs auprès de Pascal Praud. Quel est ce vent? Je n'en sais rien. Mistral, Tramontane, le vent marin ou encore, je ne sais pas. Voilà, donc que les auditeurs de RTL puissent nous éclairer. Mistral, Tramontane, le vent marin. En tous les cas, effectivement, c'est un vent qui propulse les coureurs de façon très rapide vers l'arrivée. C'est ainsi que le départ a été donné 10 minutes plus tard, car sinon, eh bien, les meilleurs horaires, eh bien, organisés et conçus par Amaury Sport Organisation, ces horaires-là, eh bien, auraient été évidemment pour la télévision notamment mis à bas. Donc, il y a beaucoup de vent, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bordures, beaucoup de fractures au sein du peloton, avec une information importante. Peter Sagan, 7 fois porteur du maillot vert, 3 fois champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de 12 étapes sur le Tour de France, est non partant, il a mal au genou. Le point sur une situation donc très ventée ou venteuse avec sur la moto RTL Mourad Jabari.
Oui, ce ZEF, Christian, on le sent très bien sur la moto, un départ nerveux hein, avec dès les premiers kilomètres, parce qu'on alterne entre les sections boisées, couvertes, et puis de longues lignes droites découvertes avec des vignes à droite et à gauche, et donc ce vent qui souffle assez fort, qui vient de côté, de face, selon la route, et bien, qui est en ce moment favorable le peloton à ce vent dans le dos, donc ça va très vite à l'avant du peloton, et ce peloton qui s'est déjà scindé en plusieurs parties avec un groupe en tête, 60 coureurs environ, où on retrouve le maillot jaune, le maillot vert, Vingegaard, le maillot blanc qui a attaqué hier Pogacar, dans un groupe juste derrière Geraint Thomas qui est à 30 secondes de tout cela, donc un départ animé propice à la bordure, vous le disiez, et ce n'est que les 10 premiers kilomètres de cette étape.
Donc entre Drôme, Ardèche et Gard, Mistral, Tramontane ou vent marin, à vous de jouer. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
Merci Christian, merci à Stéphane. A priori, c'est plutôt le Mistral, cher Christian, parce que je regardais en même temps que vous parliez, et a priori, c'est plutôt le Mistral à Nîmes.
Et le vent marin, non? Le vent marin à Nîmes, ça existe?
Il n'y a pas de mer à Nîmes, si vous me permettez.
Non, mais avec un M majuscule.
C'est un vent marin sans mer, ce qui peut arriver.
C'est un nom propre.
Mais bien sûr. Mais en revanche, puisque vous êtes à Nîmes, c'est l'occasion de saluer la mémoire de notre ami Eugène Saccomanno.
Eugène Saccomanno, bien
exactement,
évidemment.
Exactement, avec qui nous avons tant travaillé.
Et l'arrivée est à 2 pas du stade des Costières.
Eh bien écoutez, ça sera un hommage que peut-être... nous lui rendrons et nous penserons à lui. Merci en tout cas Christian, et je vous jure, le ZEF, oui, c'est un joli mot comme vous avez dit, le ZEF, nous allons en parler, et vous restez à l'antenne jusqu'à 14h30 ou pas Christian?
Si je ne m'envole pas, oui.
Eh bien écoutez, Christian nous a posé une question, donc
on va essayer d'y répondre.
Il est important de préciser.
Ah non, mais j'ai bien compris que c'était important pour vous, ça ne m'a pas échappé, oui, cher ami.
Non mais attendez, parce que le vent souffle à Nîmes, donc vous me parlez du Mistral, mais les coureurs sont dans la Drôme actuellement. Ah, puis dans l'Ardèche,
oui, bien
donc
sûr,
là, bah, le qualificatif du vent peut se modifier.
Mais c'est la Tramontagne. En fait, c'est assez fréquent. Hein. C'est une centaine de jours par an à peu près, la Tramontagne.
Bon, en fait,
ou
vous êtes comme moi, vous n'en savez rien, Pascal.
C'est le principe, mais je fais ça dans plein de domaines, vous le savez bien, cher ami. Bon, restez avec nous, cher Christian. Stéphane Jeunesse.
Bah justement, on va parler de la météo demain matin. Tiens, du mieux, fini la pluie sur toute la France, de très belles éclaircies sur la majeure partie du pays. Un grand soleil donc sur la côte méditerranéenne, peut-être du ZEF, on ne sait pas. Les températures, eh bien, elles seront très agréables. Prévoyez 13 degrés à Aurillac, 17 à Paris, et la maximale sera pour Nice avec 23 degrés. Allez, un petit mot des courses qui ont lieu en nocturne à Longchamp aujourd'hui. Jordan Philippi vous conseille de jouer le 7, le 11, le 4, le 2, le 8, le 3, le 14, le 6 et sa dernière minute, c'est le 11, Nero Casse. La suite des auditeurs à la parole à 14h06 avec vous, Pascal Praud.
Et on va marquer une page de publicité quelques instants et nous allons parler des couples au volant qui parfois se chamaillent lorsque l'homme conduit et que la femme trouve qu'il conduit ou trop vite ou trop mal. Donc vous allez nous livrer vos expériences. Peut-être que sur ce sujet, comme sur d'autres, l'ami Christian Olivier voudra intervenir. Je n'en doute pas. La pause, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole
Pascal Praud sur RTL.
Et ce sont des sujets que nous aimons bien généralement dans les auditeurs. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce sujet d'ailleurs. Un couple sur deux s'est déjà disputé en voiture à l'occasion d'un court ou d'un long trajet, selon une enquête IFOP. Plus de la moitié des femmes indiquent que le style de conduite est une source de dispute avec leur compagnon. 43% des femmes en couple ont déjà eu peur en voiture lorsque leur mari conduit. Alors nous sommes avec David, tiens, qui est chauffeur routier. Alors vous êtes un professionnel, forcément, bonjour. David. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Bon, quand vous prenez une voiture pour deux, vous allez dîner ou vous allez en vacances,
non, que sais-je. Non, pas en vacances.
Bon, ouais, qui conduit?
C'est moi, toujours.
Mais c'est vous parce que votre femme ne veut pas conduire ou c'est vous parce que vous ne voulez pas qu'elle conduise?
C'est moi qui lui fais souvent des réflexions, en fait. C'est pour ça. Parce que bon, je trouve qu'elle anticipe pas assez, ou elle freine trop tôt, on va arriver à un feu rouge, elle va arriver sur les voitures, elle va pas avoir le temps de décélérer tranquillement pour éviter que la voiture s'arrête tout de suite. Enfin bon, c'est...
Voilà. Vous n'êtes pas très gentil, mais elle a déjà eu un accident, votre épouse ?
Non, jamais. Non,
et vous ?
Jamais, mais moi, jamais.
Bon, pareil. Donc elle conduit bien. Elle a combien de points ?
Elle en a 12.
Et vous ?
5.
Ah bon, vous feriez mieux de moi lui faire de réflexion parce que c'est plus efficace sa conduite.
À cause de mon métier qu'on perd des points, c'est des points bêtes, téléphone à la main quand l'employeur est là.
Ah oui, ça c'est un point bête, le téléphone à la main, parce que ça je suis bien d'accord avec vous. Mais et si parfois elle vous a demandé de conduire ?
Généralement quand on part, c'est toujours moi qui conduis en fait.
Oui, ça j'ai bien compris l'affaire, mais c'est pas ma question. Est-ce qu'elle vous a dit de temps en temps, moi j'aimerais bien conduire parce que je m'ennuie à la place du chauffeur et passager, je veux dire.
Ah oui, elle me demande souvent, mais non.
Jamais ça arrive.
Non, là.
Vous êtes le chef.
Moi je suis le chef, en même temps on a un véhicule récent, donc quand je lui dis, j'ai la voiture, moi j'ai une consommation de 6 litres au 100, elle, quand elle a la voiture pendant 2 semaines, je regarde sa consommation, elle est plus près des 8 litres que des 6 litres.
Ah oui, est-ce que vous regardez sa consommation?
Je regarde, oui, normal.
Dites-moi, quand vous regardez la télévision le soir tous les deux, qui a la zapette dans les mains?
C'est ma conjointe.
Ah, bon, alors c'est, vous voyez, parce que c'est un vrai pouvoir aussi, la zapette.
Oui, mais bon.
Donc elle a la zapette, vous avez la voiture.
Voilà, celle qui commande la télé. Mais
écoutez, non, mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés?
On n'est pas mariés, ça fait 16 ans qu'on est ensemble.
16 ans. Vous avez des enfants?
Oui, on a deux.
Bon, les enfants, c'est des garçons, des filles?
Les deux, filles et garçons.
Bon, et vous trouvez que, par exemple, vous avez le même rapport avec le garçon et avec la fille ou parce que, en fait, ma question, vous l'avez bien compris, est-ce que vous êtes un peu macho, quoi? C'est ça que ça veut dire?
Non, du tout, non. Autant avec un qu'avec l'autre.
Est-ce que vous êtes, par exemple, je ne sais pas, plus. Est-ce que vous voyez une différence dans votre attitude du père que vous êtes avec votre fille ou avec le garçon? Ou est-ce que vous les traitez, j'ai envie de dire, pareil?
Pareil, tout est pareil.
Bon. Voilà. Vous n'êtes pas macho?
Non, du tout.
Vous conduisez tout le temps quand même, quoi.
Je conduis,
est-ce que vous pensez que vous conduisez mieux qu'elle?
Ah oui, largement. Ah oui. Ça, c'est pas macho.
Je vais être lucide.
Non, faut être réaliste dans la vie.
Mais bien sûr. Il y a pas de... Bon, David, restez avec nous, parce qu'en fait, moi, j'adore ces petites discussions. Vous l'avez bien compris. Voilà. Parce que je vous taquine, mais en fait, on doit tous être un peu pareil, d'une certaine manière. Moi, je conduis souvent parce que je m'ennuie un peu si j'étais passager. Mais en revanche, parfois, après les dîners, je ne conduis pas. Vous voyez.
Moi, c'est pareil. Moi aussi, c'est pareil.
C'est-à-dire
Si je bois un petit verre...
Voilà, là, je laisse le volant, parce que...
Je laisse le volant,
voilà,
c'est normal.
Ma compagne, Oui, elle ne boit pas du tout. Donc, je lui cède le volant. Parce que dès que tu as pris un verre ou deux verres, maintenant, tu es au-dessus. Donc, je ne sors pas, rassurez-vous, des dîners en roulant sous la table. Si tu as pris deux verres, trois verres, et tu es arrêté, tu y es.
Voilà, mais je vais dire une phrase macho, là, quand j'ai bu, oui, il faut bien qu'elle conduise, normal. Là, c'est macho.
Quand j'ai bu, faut bien qu'elle conduise. C'est une des choses les plus horribles que j'ai entendues depuis que nous faisons cette émission. Mais c'est drôle en même temps, David. Parce qu'il y a un peu de second degré, ça, c'est bien. Alors, François est là. François.
Oui, bonjour à tous.
François, qui conduit chez vous quand vous êtes tous les deux?
Les deux, il n'y a pas de comment je vais dire, de scrupule à dire l'un ou l'autre. Pas chaud, hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les gens qui se querellent comme ça, je pense.
Ah, la liaison n'est pas terrible, François. On va la sécuriser. On écoute Stéphanie. On écoute Stéphanie d'abord avant vous. Stéphanie qui habite dans le Bas-Rhin. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Pascal. Alors, je suis très contente de vous avoir. C'est pas la première fois qu'on s'appelle.
Oui.
Je suis très contente de vous avoir.
Bon, bah écoutez, moi je suis très contente de vous avoir également.
Merci.
Bon, vous qui d'abord vous êtes en couple?
Oui.
Bon, est-ce que vous engueulez lorsque vous êtes en voiture avec votre chérie?
Alors, quand on fait des longs trajets, oui, bien sûr. Qui s'engueule pas quand on fait des longs trajets? Mais c'est en vacances, c'est toujours mon mari qui conduit. Je conduis ma voiture, qui est la plus belle, hein, pas la plus moche du coup.
Ouais.
J'ai la plus belle voiture et mon mari a la plus moche. Mais
ah bon?
En vacances, oui. Mais en vacances, c'est toujours lui qui conduit. Mais il écoute jamais le GPS.
Et c'est pour ça que vous vous engueulez?
Bah oui. comme tout le monde.
Mais tout le monde ne s'engueule pas forcément en voiture quand même. Mais pourquoi Mais pourquoi alors vous mettez le GPS s'il ne l'écoute pas? Donc alors, il se trompe, c'est ça que vous voulez dire?
Ah ben oui, 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 oui. Alors soit il anticipe, ou soit il anticipe pas assez, soit il anticipe trop, ou alors il fait ça trop tard, alors on se retrouve à faire des demi-tours, une demi-heure de trajet en plus.
Ah oui, non, là,
alors,
ça va pas du tout.
Alors, GPS, pourquoi
vous faites, oui, non, mais votre mari, il est à l'ouest, là, quoi, votre compagnon?
Non, il conduit très bien, par contre. Il conduit très bien. Mais il a une voiture super sophistiquée, mais il se sert de rien dans la voiture. La caméra de recul, il s'en sert pas. Le GPS, non, il raconte que des conneries, le GPS, on va passer par là. Donc,
ah oui.
C'est toujours source de disputes, en fait.
Bon. Mais c'est des gentilles disputes, rassurez-moi.
Mais oui. Moi, oui. Ça dépend.
C'est-à-dire, ça dépend. Vous n'en venez pas aux mains, rassurez-moi.
Mais non.
Dans la voiture.
Non, c'est des gentilles disputes.
Bon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il conduit mieux que vous ou le contraire?
Non, il conduit bien. Il n'est pas très téméraire, il conduit très bien.
Pas très téméraire. Mais c'est pas Fangio non plus. Je veux dire quoi, être pas très téméraire? Je veux dire, tu prends ta voiture, tu vas au travail, tu vas en vacances, tu es sur l'autoroute. Ça veut dire pas téméraire?
Je fais un petit peu plus de bêtises que lui en voiture, on va dire.
Ah oui, vous voulez dire de jouer avec les règles?
Non.
Mais c'est-à-dire que vous roulez un peu plus vite? Vous prenez des sens interdits? Qu'est-ce que vous faites?
Non, pas de sens interdit. Non, je conduis un peu plus vite. Voilà.
Ah bon? Ah oui, mais ça, c'est pas si fréquent. Généralement, c'est les hommes qui conduisent un peu plus vite
que leur épouse. C'est pour ça que tout à l'heure, à la standardie, je lui ai dit, je vais faire rire Pascal, parce que, en fait, c'est tout le contraire, moi. Mon mari suit vraiment bien les règles, et j'ai tous mes points, donc il n'y a pas de souci.
Mais je vais vous dire, il n'y a rien de mieux qui révèle quelqu'un que la manière dont il conduit. Mais puisqu'on parle chacun de deux couples, moi-même, ma compagne, elle roule infiniment plus vite que je ne roule moi.
Ah ben voilà, vous voyez.
Allez, alors c'est une sportive hein, en même temps, mais elle roule beaucoup plus vite. Mais je vais vous dire autre chose, c'est que pour bien conduire et conduire vite, il faut très bien voir aussi. Et c'est pas forcément mon point fort.
Et surtout connaître sa voiture.
Oui, il faut mieux connaître sa femme parfois. Sa voiture. Lorsqu'on est à côté d'elle, l'important, si vous me permettez, c'est... Bah oui, parce qu'après, faut connaître la femme avec qui on part en voiture plus que connaître la voiture avec qui on part.
Mais voilà.
Croyez-moi. Bon. Mais moi, je trouve que c'est bien la voiture parce que quand on est en couple, justement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il se dit des choses lorsqu'on conduit. C'est très agréable de parler, d'échanger, même sur des choses très importante ou très intime. Je trouve que c'est un temps qui favorise la conversation.
Oui, c'est différent. On n'a pas la même conversation en voiture comme on a quand on est à table, quand on est à table avec des amis, avec nos enfants.
Oui, voilà, mais on est vraiment tous les deux dans une intimité.
Oui.
C'est Claude Lelouch qui avait dit ça dans une interview, que lui, quand il se séparait d'une femme, il lui disait en voiture. Ce n'est pas très délicat, donc quand la fille montait en voiture, elle savait qu'elle allait peut-être se faire là. Mais il disait que c'était un lieu de rupture intéressant. Bon, merci Stéphanie, on va marquer la pause, une nouvelle pause. Et c'est des sujets de vie quotidienne, donc on aime ça, parce qu'a priori, On est souvent en voiture. C'est dommage que Greg Carnoni ne soit pas là, parce qu'autrement, lui, il est en trottinette, comme vous le savez. Donc, je lui ai demandé s'il voyageait en trottinette avec son épouse et s'ils échangent à deux en trottinette, mais il n'est pas là. C'est Boris.
On peut l'appeler si vous voulez.
Boris, comment ?
On peut l'appeler si vous voulez.
On va l'appeler demain. Mais okay. Boris Pirédou, je le salue. Il est là demain, Boris, ou c'est...
Ce sera Grégory pour la dernière.
C'est Grégory demain. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Nous évoquons l'amour au volant, si j'ose dire. Un couple sur deux s'est déjà disputé en voiture à l'occasion d'un court ou d'un long trajet. Et puis, je disais tout à l'heure que Greg Carnoni n'était pas là à la réalisation aujourd'hui. Je me trompe un peu parce qu'il est là, puisqu'il est venu dans notre studio. Il nous
écoutait. Je ne suis jamais loin. Bonjour à tous.
Bonjour. Et comme vous êtes un amateur de trottinette, je me demandais si vous échangiez avec votre compagne sur la trottinette.
Ah non. Une seule personne par trottinette.
Ah bon, on ne peut pas être deux. Je vois parfois deux personnes sur
c'est
une
interdit.
Trottinette. Ah, c'est interdit.
C'est
interdit. Oui. Donc c'est important. Donc quand je le vois, c'est vraiment pas...
Ah, vous pouvez faire la police ?
Non, mais c'est important de le dire. Bon, vous n'avez pas de voiture ?
Si, j'ai une voiture, bien sûr.
Une voiture et une trottinette.
Une voiture et une trottinette.
Bon, vous vous engueulez avec madame
En fait, je ne suis pas très bon... comment dire ? Je n'arrive pas à très bien suivre le GPS. Souvent, je rate la sortie.
Ah oui, ben c'est, on nous a dit ça tout de suite également. Merci, vous serez là demain pour,
la dernière
de la saison. François est là. Merci Greg.
Avec des cadeaux peut-être demain.
Ah ben je l'espère. François, oui, est-ce que la liaison est meilleure à Deauville ?
Pour moi ça va, je vous entends très très
bien. Ah ben c'est parfait, je vous entends parfaitement également. Alors, votre attitude au volant avec madame ?
Ben moi je suis pacifique, c'est-à-dire que bon, elle veut prendre le volant, elle prendra le volant si elle veut, il n'y a pas de problème. Mais là, à 90% ou des trois quarts, c'est moi qui conduis. Mais les 50% dont vous parlez, là, je pense que ce sont des futurs divorcés. Vous voyez ce que je vais vous dire ? Parce qu'ils ne se supportent pas dans la vie, ils se défoulent, vous voyez ce que je vais vous dire, dans la voiture. Comme vous avez dit avec Claude Lelouch, vous voyez, ça m'a, comment je veux dire, c'est ce que je voulais vous dire d'un sens ou d'un autre. Et donc, automatiquement, un couple qui boite déjà, il se défoule dans la conversation, il ne se supporte pas. Vous voyez, parce qu'il ne s'aime plus. Donc, automatiquement, il se défoule à la circonstance de la voiture, et bien, c'est l'appui de la
C'est vrai que quand un couple ne fonctionne plus, tout fait sens. C'est-à-dire qu'on s'agace, on s'énerve, ça est la voiture, mais ça peut être aussi un comportement de l'autre, un bruit de l'autre, on ne supporte plus son odeur, pourquoi pas. C'est horrible d'ailleurs, les couples qui se déchirent, parce que chacun a pu connaître ça dans sa vie et c'est pas agréable. Ça fait longtemps que vous êtes avec madame, François ?
Oh, ça fait une quarantaine.
Oui, donc j'allais dire le plus dur est passé, mais c'est vrai que...
Oui, le plus gros effet, c'est ça que vous
dire. Non, mais pas du tout, parce que je trouve ça merveilleux, pour tout dire, les couples qui tiennent. C'est formidable, en fait.
Parce que prenez, par exemple, autour de vous, si vous avez des couples à table, vous n'avez qu'à regarder, vous analysez. Des fois, on ne parle pas, puis on regarde les gens. Mm. Vous n'avez qu'à regarder, les trois quarts sont mal mariés.
Vous trouvez ?
Il y a des gens qui sont ensemble, qui ne devraient pas être ensemble, mais là, ça... Là, c'est pour eux, parce qu'ils ont du mal à supporter, c'est pas bien à la suite. Mais ils trouvent toujours un prétexte pour se quereller, quoi. Je pense que l'automobile fait partie de cela.
Ben, vous n'avez pas tort.
Et puis, je pense que conduire, moi, j'ai fait confiance. Comment elle fait confiance? Elle a 12 points, moi, j'ai 12 points. Vous voyez, mais je suis pas un super. Hein. J'ai pris des petits procès. À Paris, j'en ai pris deux en rien de temps, de procès de radar. 71 et 72. Alors, vous voyez, j'étais à 1 et 2. Vous voyez ce que je veux dire?
Merci, François. Vous étiez le dernier auditeur. Ça va être le débrief. 14h24. Vraiment, nous vous saluons, comme nous saluons madame. Et puis, bonne route. Le débrief, Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Vous êtes sûr, Boris, notre réalisateur du jour. En ce moment, c'est plutôt cette ambiance avec le variant Delta.
Ce variant est redoutable, il est extrêmement rapide. Et partout où il sévit, il peut gâcher l'été. Le risque d'une quatrième vague rapide est là.
Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations.
Oui, bon, après tous ces propos du gouvernement, j'ai comme l'impression que...
C'est vraiment la caca, la cata, c'est là. C'est la catastrophe.
Voilà, et une seule solution pour l'infectiologue Odile Launay.
La vaccination est aujourd'hui le seul moyen qu'on ait pour éviter d'avoir à nouveau un nombre important de personnes hospitalisées.
Et la vaccination, Thierry, a dit oui.
Oui.
Il est était vacciné et c'est vrai que ce n'était pas gagné.
6 mois en arrière, j'étais dans la méfiance, je disais je veux attendre du recul, j'attends un vaccin français. Et puis mon médecin m'a dit non, non, il faut arrêter, maintenant il faut se vacciner. J'ai eu ma première dose, je vais faire ma seconde dose et s'il en faut une troisième, j'en fais une troisième et puis voilà.
Et faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants? Faudra-t-il vacciner? Tiens, tout le monde, le message de Thierry.
Pour l'instant, que les adultes prennent leurs responsabilités avant de s'en prendre aux petits de 8 et 9 ans. Ma fille de 9 ans, elle m'a dit papa, je veux la piqûre pour enlever le masque. Vous vous rendez compte, elle a 9 ans. Et à côté de ça, vous avez des adultes qui disent « Ah, moi, je veux pas de ce vaccin parce qu'on sait pas ce qu'on nous met sous la peau et tout. » Mais on devient complètement taré, on fait des caprices d'enfants gâtés.
Le vaccin contre la Covid-19, Geoffroy, ne veut pas en entendre parler.
Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis en pleine forme, je n'ai aucun problème de santé, je n'ai pas de pathologie cardiaque. Et donc, aujourd'hui, de vouloir m'obliger à me faire vacciner parce qu'il y a des gens qui ont décidé, eux, de se faire vacciner, je trouve ça complètement délirant. Que les gens qui ont peur se fassent vacciner, que la population fragile se fasse vacciner et donc on n'aura pas besoin de vacciner le reste de la population.
Et comme d'habitude dans l'émission, c'est le point météo de Pascal Pro.
Il fait beau en Charente aujourd'hui ?
Bah écoutez, pour l'instant il neige pas, donc on n'est pas trop mal.
Arrêtez, mais ça... vous êtes où vous en Charente à Angoulême ?
Ouais, non, c'est un temps... non mais c'est un... Je suis... c'est un temps pourri, c'est un temps pourri.
Mais non, il faisait beau ce week-end.
Non,
hein. Il faisait chaud.
Madame est là, s'il vous plaît.
Ah, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. On est limite obligé de venir avec une écharpe dans le studio.
Je suis en train d'éternuer à cause de la clim, voyez-vous. Mais comme je suis tout seul dans ce studio, a priori, je ne vais contaminer personne.
Oui, heureusement que vous éternuez quand je suis en régie, Pascal. Sécurité absolue, quand même.
C'est Laurent. Ah, pardonnez-moi, Laurent, mais...
Cette climatisation
me joue des tours chaque jour, précisément.
Ah, mais retenez-vous un peu, coupez-moi cette clim. Et nous adorons aussi faire connaître dans l'émission le langage des jeunes avec Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL.
Bienvenue à Nîmes, une étape qui sera très compliquée car il y a du ZEF. Du ZEF, c'est du vent.
C'est pas vrai. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée de Christian Olivier lorsqu'il est en balade, le ZEF.
Si tu crois que c'est fini,
jamais.
C'est juste une pause, un répit.
C'est un peu la chanson des variants. Hein.
Merci Laurent, on se retrouve demain. Et puis on fera une émission, je l'espère, un peu festive avant de se retrouver le 23 août.
Et jamais les confettis. Hein.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.